Mes frères, sœurs, dans le Messie Yeshua, je vous salue. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde et vous donne la grâce de continuer à l'aimer, à le servir et à espérer en lui jusqu'à la fin des jours ou jusqu'à ce que la trompette sonne. Je bénis le Seigneur aujourd'hui de me donner cette opportunité de réfléchir sur sa parole et de la communiquer et de la commenter. J'espère que ce message fera du bien à ceux qui l'écouteront. N'hésitez pas à me poser des questions, à l'écouter ou bien à visiter notre site campagnepouryeshua.com. Je voudrais aborder un sujet très important. Aujourd'hui, l'idée a émergé en moi suite à une discussion donc vive avec un frère. Donc j'ai intitulé cet enseignement « La souillure, le péché et l'iniquité ». Donc je vais traiter ces thèmes en trois fois pour ne pas être long. Donc aujourd'hui je vais commencer par la fin, c'est-à-dire l'iniquité. Voilà, parce que la transgression ou bien le péché devant Dieu est rendu de différentes manières, ou bien l'offense à Dieu dans la Bible est rendue de différentes manières. Donc voilà, beaucoup de mots ont été traduits par iniquité, mais le plus souvent nous ne savons pas ce que c'est. Donc nous irons dans les mots hébreux qui ont été traduits par iniquité. Il y a au moins quatre mots dans les Écritures, c'est-à-dire ce que nous appelons l'Ancien Testament. 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3, 4. Oui, quatre mots dans l'Ancien Testament et un mot dans le Nouveau. Donc, l'iniquité dans le Nouveau Testament a été rendu par un thème grec. Donc, ce que nous voyons, si nous utilisons le dictionnaire Strong, on nous explique que le mot iniquité, hein, en tout cas, les mots, quatre mots en hébreu ont été traduits par iniquité. Mais ces quatre mots ne signifient pas forcément les mêmes choses. Vous savez, en hébreu, il y a la racine. Il y a une racine qui peut donner plusieurs mots. Même le contraire. Donc, ça dépend du contexte dans lequel le mot est employé. C'est ça qui donne le sens en hébreu. Par exemple, il n'existe pas de temps en hébreu. Le temps est relatif. Le temps des verbes, je parle, est relatif. Les verbes en hébreu sont relatifs, mais c'est le contexte, c'est le lien contextuel de ce verbe avec les autres qui l'entourent, donc qui lui donne le sens, qui donne le temps dans lequel ce verbe doit être conjugué. Peut-être que c'est difficile pour vous, mais c'est ainsi. C'est ainsi. C'est pas, le temps n'est pas absolu, le temps des verbes n'est pas si absolu. Comme en français, c'est absolu. Le futur, c'est le futur. Le passé, c'est le passé. En hébreu, il n'y a pas ça. C'est relatif. Ça dépend du contexte. Bon, je ferme cette parenthèse. D'abord, le mot qui a été traduit par iniquité, je vais voir qu'est-ce qui est plus ancien, oui, Genèse. Le mot Avon, si vous voulez, Avon. Avon, on peut lire ça comme ça, oui, Avon. Voilà, Avon. Ce mot apparaît pour la première fois dans Genèse 4, le verset 13. Il existe une règle en hébreu qui qui dit que la première apparition du mot dans la Bible donne le sens à ce mot-là. Donc le mot Avon apparaît dans 213 versets dans l'Ancien Testament. Ce mot signifie perversité, dépravation, tordu, d'accord, châtiment, ça veut dire châtiment, crime, coupable, faute, mal. Mais, comme je viens de vous le dire, ça peut aussi veut dire innocence. Vous voyez, en hébreu, c'est ça. Ça peut aussi dire innocence selon le contexte. Donc, ce mot apparaît dans Genèse 4, le verset 13, où c'est Caïn qui dit. Caïn, bon, Caïn pour les Français, mais bon, je vais prononcer plutôt en hébreu. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment, mon avon, est trop grand pour être supporté. C'est Caïn, après avoir tué son frère, hein, qui dit ça. Ou bien, il parle de sa culpabilité. Parce que le mot avon aussi veut dire culpabilité. Dépravation. Donc, ici, il peut dire aussi que c'est sa dépravation est trop grand pour être supportée. Mais ce mot avon veut dire aussi tordu. Et donc, quand souvent nous parlons des hommes, nous voyons des fois des gens, lui, il est tordu. Hein, on entend des discours sans ça. Il est complètement tordu, quoi. C'est une qualité que la personne a, une qualité, une mauvaise qualité, hein. Une mauvaise qualité que la personne a. Voilà, c'est ça le mot iniquité renvoie à la qualité de la personne. On dit ce monsieur-là, il est tordu, il est méchant. Vous voyez, la méchanceté est en lui, quoi. La méchanceté est en lui. Quel est le sens du terme qualité, du mot qualité. On nous dit aspect, manière d'être de quelque chose ou de quelqu'un. Ensemble des modalités sous laquelle quelque chose se présente. Caractère, essence. Vous voyez, essence, nature. Ensemble des caractères, des propriétés qui font que quelque chose correspond bien ou mal à sa nature. Hein, c'est ça. Qualité, c'est ça. Trait de caractère, manière d'être, que l'on juge positivement, que l'on d'être, manière d'être, conditions sociales, ainsi de suite. Qualification, défaut, faiblesse. Ah, donc voilà, la qualité, c'est ça. Le caractère de quelqu'un, les propriétés de cette personne, la nature intrinsèque. Il y a des gens comme ça qui sont méchants de nature, hein, qui sont tordus de nature, qui sont pervers de nature. Par exemple, ce mot a été utilisé aussi pour la deuxième fois, le mot Avon, en parlant de des Amoréens. Ouais, à la quatrième génération, il revient qu'à l'iniquité, l'avon des Amoréens n'est pas encore à son comble, ou la méchanceté, ou la culpabilité, ou la perversité. On sait que le peuple cananéen était vraiment pervers, était vraiment pervers, jusqu'à livrer leurs enfants au culte, en les brûlant pour une idole, ou bien il y a aussi la prostitution sacrée. Hein, tous ces mœurs, toutes ces célébrations idolâtres se terminent par, souvent par une orgie sexuelle. Donc c'était la dépravation totale. Donc ce sont des gens qui sont tordus, quoi, qui, dans leur caractère, voilà, qui sont tordus. C'est ça l'iniquité. Quelqu'un qui est tordu, quelqu'un qui est pervers, qui retourne les situations. Vous voyez, pervertir, c'est. Ça vient La perversité vient du la pervertir, c'est renverser les fondations. Renverser les fondations. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va renverser, qui peut transformer le bien en mal, vous voyez, qui va appeler bien mal et mal bien. D'accord, c'est ça. On trouve ces gens dans la politique. Dans la politique, l'anti-messie sera. Il va être quelqu'un qui est sans loi, un pervers, qui va vouloir détourner la parole de Dieu. Vous voyez, qui va faire voir au peuple, aux populations du monde entier, qui va présenter la parole de Dieu ou la loi de Dieu comme mauvaise. C'est pourquoi on l'a appelé dans le Nouveau Testament, dans Matthieu. Lisons, je vais enchaîner avec ça en même temps. On l'a appelé Anomia. La première fois que ça apparaît, c'est dans Matthieu. Anomia se trouve dans 12 versets dans le Nouveau Testament. Matthieu 7, le verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, l'anomia, vous qui êtes sans loi. Anomia en grec, condition de celui qui est sans loi. Il faut distinguer l'iniquité du péché. Le péché qui est la transgression, mais nous le verrons de la loi. De la loi ou bien de manquer le but. Hata, en hébreu, hata. Le péché, hata. Donc, voilà, anomia, en grec, dans Matthieu, c'est ça, des gens qui sont sans loi, qui méprisent la loi. L'anti-messie va être, on l'a appelé l'homme de l'iniquité, l'homme de l'anomia, quelqu'un qui va mépriser la parole de Dieu, qui va vouloir transformer la parole de Dieu, qui va amener les peuples à rejeter la parole. Vous voyez, c'est quelqu'un de tordu, vraiment de pervers, qui va vouloir renverser, qui va vouloir se présenter comme Dieu, vous voyez, alors qu'il est le mal en personne. Il va renverser les choses. Le psaume 2 nous le montre bien, quoi. Nous le montre bien que, arrivé un moment, les nations vont dire, brisons leurs chaînes, brisons les chaînes de la loi, vont trouver la parole de Dieu comme des chaînes. Mais nous y sommes aujourd'hui. Beaucoup de gens ne veulent plus de la parole de Dieu. Beaucoup de gens veulent interpréter les choses à leur façon. Ben voilà, on voit ça dans beaucoup d'endroits actuellement. Les gens ne croient plus à, oh non, là, c'est l'Ancien Testament, allez, nous sommes maintenant des gens modernes, civilisés. Non. La parole de Dieu est intemporelle. Cette parole de Dieu, c'est une parole pour notre temps aujourd'hui, où les mœurs sont complètement dépravées, sont en live. Les gens sont vraiment en live. Hein? Les gens sont vraiment en roue libre, quoi. Ils ne veulent, ils rejettent tout, ils veulent faire comme ils veulent, tout le monde fait ce qui leur plaît. Les gens sont sans loi, les gens font n'importe quoi, ce qui leur plaît, voilà. Au nom de la tolérance, au nom de l'amour, au nom de je ne sais pas quoi encore. Au nom de je ne sais pas quoi encore. Donc, on ne veut plus de Dieu, on rejette Dieu. Voilà, on ne veut plus. Anomia, c'est ça. Mépris et violation de la iniquité, méchanceté. Transgression de la loi. Anomia. Anomos vient de anomos, anomia. Voilà. La loi, anomos, en grec, veut dire destituer. Vous voyez, destituer. Cet anti-messie va vouloir destituer la loi de Dieu. Il y a aussi dans certains chrétiens qui n'ont pas bien compris cela veulent aussi destituer la loi. Ils disent que la loi est abolie, alors que la loi ne peut pas être abolie. Je répète, la loi ne peut pas être abolie. La loi de Dieu, les 10 paroles, les 10 commandements ne sont pas abolis. C'est un mensonge. Vous voyez, c'est ça l'anomia, ça. C'est ça l'avone dont nous parlons, c'est ça. Tous ces gens qui disent ça, parce que la loi de Dieu est perpétuelle. La loi de Dieu reflète sa sainteté, reflète ça, son caractère, donc ça ne peut pas être aboli. Donc lorsque nous abordons ce thème, il faut que nous soyons très, très humble, parce que la loi et la grâce ne sont que deux faces d'une même pièce. Sans la loi, il n'y aura pas de grâce. C'est parce que la loi punit que la grâce est intervenue. C'est comme ça. Sans la loi, il n'y aura pas de grâce. C'est parce que nos premiers parents, Adam et sa femme et son épouse Ish et Isha, ont transgressé la loi de Dieu dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu leur dit, vous mangerez de tous les arbres, mais vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre qui est là-bas, pas l'arbre de vie, qui l'arbre de connaissance du bien et du mal, vous n'aurez pas fait. Lorsqu'ils l'ont fait, donc l'Éternel Dieu a tué un animal, puisque nos Adam et Ève ont perdu leur innocence, leur protection naturelle. Avant, la Bible nous apprend qu'ils étaient revêtus d'habits de lumière. Ils étaient revêtus de lumière. Mais maintenant, ils sont revêtus de peau. D'accord? L'humanité a perdu cette lumière-là, ces vêtements de lumière. Donc, l'Éternel Dieu a tué un animal et leur a confectionné des habits. C'est ça la grâce, ça. Vous voyez, c'est deux faces d'une même pièce. Donc attention, mes frères et sœurs, lorsque nous abordons ces choses-là, attention, la loi ne peut être abolie. De la même manière, Yeshua lui-même l'a répété un seul iota. Il est vrai que la loi ne sauve plus. Aujourd'hui, la loi ne sauve plus. La loi ne sauve pas. La loi ne sauve plus aujourd'hui. Et c'est la grâce qui sauve. C'est Yeshua qui sauve. Et nous avons la grâce par Yeshua. C'est lui seul qui sauve, qui guérit, qui enlève le doute. Mais la loi n'est pas abolie. La loi ne sera abolie ou bien transformée qu'à la fin de toutes choses, lorsque nous rentrons dans l'éternité. Parce que c'est une loi perpétuelle. Ça a un commencement et ça aura une fin bientôt. D'accord? Donc, c'est ça. Parce que j'entends des fois des discours de certains frères et sœurs qui me font peur, quoi. Des fois, je tremble en les entendant parler comme si Dieu avait fait une erreur en donnant la loi, comme si vraiment c'est une erreur, quoi. Un Dieu de sainteté, le seul être le plus intelligent, le plus puissant, c'est lui seul qui est. Le nom de Dieu vient du verbe être. Il est véritable. Nous ne sommes que des contingences. Vous comprenez? Le maître de toutes les forces, l'ancien des jours, la sagesse même, qu'est-ce que l'intelligence même? C'est quoi? Mes frères et sœurs. Donc ça, c'est ça. Donc, dans le Nouveau Testament, l'iniquité est décrit sous le nom de anomia, anomos. Celui qui va renverser la parole de Dieu, va renverser la loi de Dieu. Il est écrit que l'anti-messie aura des noms de blasphème sur tout son corps, sur tout, 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 tout. Je ne parle pas que c'est sur son corps physique, non. Mais c'est dans sa manière d'être, dans ses lois que lui aussi va mettre en place, ou bien dans les institutions qui sont en place, dans son système, tout son système sera blasphématoire. Parce que l'anti-messie sera un homme sans loi, sans la loi de Dieu, qui va vouloir renverser la loi de Dieu en mettant sa propre loi à sa place. Comme l'ennemi de nos âmes, le diable, le diabolos, l'accusateur de le menteur, l'accusateur, le diviseur, le diabolos, le diviseur, Satan, l'accusateur, a voulu faire, puisque c'est ça, c'est un renversement de l'autorité qu'il a voulu. Il a voulu renverser Dieu pour prendre sa place. Et la Bible a dit quelque chose à son. C'est dans. Ah, on va voir, c'est dans Zacharie, non? Attends, attendez, je vais voir. Dans Zacharie ou bien dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, voilà, Ézéchiel 28, le verset 15. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Ce mot traduit par iniquité est différent également en hébreu. C'est Evel. 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 Aleph, He. V ou bien B et Lamed. Evel. Evel. Evel, on l'a employé pour l'ennemi de nos âmes. Iniquité. Et le mot Evel en hébreu peut se traduire en français par injuste, ce qui n'est pas droit, qui est tordu également. Vous voyez? Evel, qui est tordu, qui est mal, ce qui n'est pas droit, ce qui est injuste. La première fois que ce mot a été utilisé, c'est dans Lévitique 19, le verset 15. Tu ne commettras point d'iniquité, Evel, dans tes jugements. Donc ça a un lien avec le jugement, avec comment nous jugeons les autres, comment nous procédons pour juger, alors que la Bible nous dit que le trône de Dieu ou bien du Messie est basé sur quoi? L'équité et la justice. Ou bien la bonté et la justice. L'équité ou la justice. Ouais. L'Éternel Dieu est droit. L'Éternel Dieu fait justice. La Bible même nous dit, je pense que c'est dans Ésaïe, lorsque nous serons dans le millénium, nous verrons la vraie gouvernance. Et que l'Éternel, le Messie, sera aussi juste entre les démunis, entre les pauvres. Aujourd'hui, les pauvres sont piétinés. Plus tu es pauvre, plus tu es piétiné. Il n'y a pas de justice. Les gouvernements ne sont injustes envers les pauvres. Plus tu es pauvre, plus tu es piétiné. Plus tu es pauvre, plus on t'enfonce encore la tête. Alors que lorsque tu es riche, tout le monde t'accueille, tu es loué, tu es mis en avant, tu es salué, les gens te font la courbette, mais quand tu es pauvre, même dans certaines assemblées, hein, les pauvres n'ont pas le droit. Hein. Alors que les riches viennent s'asseoir. Oh, le pasteur est content, alléluia, on disait ça, béni ce frère-là, il a donné combien, 7 sous, il a donné ça, il a donné ça. Les riches sont considérés, alors que le Messie sera aussi juste entre le pauvre et entre le riche. C'est pourquoi l'Éternel Dieu a dit dans les Écritures que les justes ne doivent pas recevoir le présent. Et il a ajouté, je suis l'Éternel, Anori Adonai. Ou bien c'est le tétragramme qui a été utilisé, mais comme on ne connaît plus la prononciation, on met Adonai, Seigneur. Il a ajouté, je suis, en mettant son nom, parce que l'Éternel Dieu est un Dieu de justice. Or, le diable, l'ennemi de nos âmes, lui, il est Evel, il est injuste. Il a été injuste envers Dieu parce que c'est Dieu qui l'a créé. C'est l'Éternel Dieu qui l'a créé. Et l'Éternel Dieu lui a donné tout. Lisons, parce que si nous lisons, vous connaissez ça, hein, je vais pas revenir là-dessus dans Ézéchiel 28, quoi. Voilà, on nous dit Ézéchiel 28, 15, on nous dit beaucoup de choses hein, là-bas. Hein. Ouais, dans le verset 14, ouais, même dans le verset, tu te trouvais, regardez. Voilà. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, dis-lui. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Tu étais le couronnement de l'édifice. Voilà, c'est que beaucoup des Jésètes nous disent que celui qu'on a peu, qui est devenu le diable après était un ange qui est attaché au trône de l'Éternel. C'est le plus grand des anges qui est attaché, peut-être sûrement qui voyait l'Éternel Dieu face à face, lui parler. qu'il était le couronnement de l'édifice. Attendons, regardons bien le mot. L'Éternel Dieu l'a placé dans une position haute. Et sa rébellion était injuste. De vouloir attaquer son bienfaiteur, de vouloir attaquer celui qu'il a créé, qui lui a donné toutes ses caractéristiques, toute cette puissance, cette autorité, c'est injuste. Il faut être vraiment tordu. Il faut être vraiment injuste et méchant pour faire ça. Tu étais parfait en plein de sagesse, mais cette sagesse a été corrompue, a été tordue. Comment il a pu penser ça, qu'il pouvait faire un coup d'état à l'Éternel Dieu? Tu te trouvais dans le jardin, dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses, de toutes sortes de sardons, de topazes. J'en passe, les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Je t'avais établi comme chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Les pierres de feu étaient dans les roues, comme l'a montré Ézéchiel. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'injustice, l'ével ait été trouvé en toi. C'est en lui. C'est son cœur qui est monté. C'est en lui. Ça vient de lui. Au milieu de ton riche commerce, relation, ton cœur s'est rempli de violence et tu devins coupable. Je te précipiterai de la montagne de Dieu. Je te détruirai au chérubin protecteur du milieu des pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton état de ouais, il a corrompu, il est devenu perverse. Il est devenu tordu. C'est ça. Ével, c'est le troisième que nous voyons. Hein, c'est le troisième, non, que nous voyons. Hein, nous avons vu Avon. Nous avons vu Anomia. Et nous voyons Ével. Troisième terme pour désigner dans la Bible l'iniquité. Et deuxième dans l'Ancien Testament. Ével, l'iniquité, l'injustice. La méchanceté également, ça veut dire ça. Ça vient du mot aval, de la racine primaire aval. Agir faussement, dévier. Il était intègre, ce chemin protège, jusqu'à au jour où il est dévié à cause de sa beauté, à cause de ce qu'il recevait, la louange, la gloire. Je vous ai dit que la gloire, en hébreu, est traduit par le mot kavod, qui veut dire lourd. Cette gloire-là qui est lourde a pesé sur lui et il a voulu prendre cette gloire de Dieu. Et il est devenu tordu, il a dévié de sa voie, de son intégrité. Le mal lui est monté. Aval, de l'homme unique et violent. Vous voyez, c'est associé. Aval est associé aussi à la violence. Le mal, c'est la racine primaire, aval, de Ével. Ével. C'est Ével qui a été employé pour désigner la rébellion du diable, de Lucifer. Ouais, il est dit, dans Lévitique 19, il est précisé aussi le verset 35, « Vous ne commettrez point d'iniquité, Ével, dans les jugements. » Vous voyez, c'est associé au jugement. « Ni dans les mesures de dimension. » Oh, les commerçants, les frais commerçants, hein, vous savez, ce n'est pas parce que tout le monde applique une certaine règle que toi, croyant en Yeshua, chrétien, tu dois aussi l'appliquer. « Ni dans les poids. » En fait, on sait comment on triche dans les pois. Hein. On met encore d'autres petits pois, on cache des choses pour que ça pèse lourd. Ni dans les mesures des capacités. Ouais, nous ne devons pas, c'est ça, dévier ce qui n'est pas droit, faire de injustice. C'est ça, evel, le mot iniquité, traduit pas iniquité. Le troisième ou le quatrième dans la Bible, on en a cinq. Hein, le troisième, c'est le mot. Bon, on va aller à. Attendez, je vais voir entre ça et ça. Ok. Je prends le mot Aven. Aven. La première fois qu'on l'a utilisé, c'est dans Nombre 23, le verset 21. Aven a été trouvé dans 78 versets. Il n'aperçoit point l'iniquité en Jacob. C'est la prophétie de Bilam. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dans Nombre 23, il n'aperçoit point l'iniquité. Aven. Ce mot Aven, est traduit par malheur, méchanceté, douleur, idolâtrie également. Idolâtrie. Donc, le mot iniquité, le quatrième mot traduit par iniquité, c'est le mot Aven qui a rapport avec l'idolâtrie, avec le malheur, l'idolâtrie, la méchanceté, la fausseté, le crime. Voilà. Le crime, ça vient d'une racine qui a le sens de haleter, mais en vain. Les idoles sont des vanités, c'est des choses vaines. Idole en hébreu, c'est des choses vaines, voilà, des choses vaines. Donc, aven a le sens de... On peut le dire, hein, de quelque chose de vain, de vaniteux, quelque chose. L'idolâtrie. Hein? L'idolâtrie. Donc, à l'époque, lorsque Bilam ou Balaam, si vous voulez, a voulu maudire Israël, lorsque Balak lui a dit de le faire, et il a prophétisé cela, il n'a pas vu d'idolâtrie en Israël. Il n'a pas vu d'iniquité parce que Israël était le peuple sorti de l'Égypte, était un peuple sanctifié par Dieu, guidé par lui, malgré leur péché, mais c'est un peuple mis à part. Il n'y avait pas d'idolâtrie en eux. Il n'y avait pas d'idolâtrie puisqu'ils avaient un seul Dieu. Et ce seul Dieu est le seul vrai Dieu, l'Éternel des armées. Il n'y avait pas d'idolâtrie. Donc l'iniquité aussi a rapport avec l'idolâtrie. Si tu mets quelque chose au-dessus de l'Éternel Dieu, s'il y a quelque chose qui peut t'accaparer plus que l'Éternel Dieu, plus que les affaires du royaume, tu es idolâtre, même si tu l'ignores. Même si tu dis non, si tu as un hobby, si tu as une habitude, si tu as une préoccupation, si tu as quelque chose qui est au-dessus de l'Éternel Dieu, alors là, tu es idolâtre. L'idolâtrie aujourd'hui, ce n'est plus simplement diriger des idoles en pierre ou bien en bois ou bien, je ne sais pas, de nouer un tissu autour d'un arbre et de faire des sacrifices là-bas, c'est pas ça. Aujourd'hui, les idoles sont diverses partout dans le monde. Le paganisme aujourd'hui est revenu. On assiste à un retour du paganisme en Europe ici. Parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est que les gens vont dans la forêt pour embrasser les arbres. Ils embrassent les arbres, ils disent qu'ils veulent capter l'énergie de l'arbre, ou bien l'énergie cosmique que les arbres leur parlent, ainsi de suite. Vous voyez, il y a des choses vraiment étranges, étranges. Même la guerre en Ukraine nous a montré des images où des soldats juraient devant des totems, devant les dieux européens passés. Donc il y a le paganisme qui est en train, l'idolâtrie qui est de retour aujourd'hui. Donc c'est de l'iniquité. C'est de l'iniquité, l'idolâtrie. Donc le quatrième mot c'est Aven. Aven. Voilà, Aven qui a rapport avec l'idolâtrie. La Bible nous dit, tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face. C'est-à-dire que tu ne mettras pas d'autres dieux qui vont rivaliser sur ma face. L'idolâtrie est un péché très grave parce que non seulement c'est un non-sens, c'est une vanité parce que c'est l'être humain qui crée son idole. Alors que celui qui crée quelque chose est supérieur à la chose créée. Normalement, c'est ça. Mais non, l'être humain crée quelque chose et il devient esclave de cette chose-là. Et c'est lui qui a créé la chose qu'il adore. Vous voyez, il y a un non-sens là. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi même l'Éternel Dieu dit aux Israélites à l'époque qu'ils ont abandonné lui qui est une citerne pour se creuser des citernes crevassées, pour se choisir des citernes crevassées. Ouais, l'idolâtrie est vraiment un péché très grave parce qu'on met la créature au-dessus du Créateur. C'est une folie. C'est de l'iniquité. Ouais, c'est de l'iniquité. Ça va au-delà du péché. Ça va au-delà du péché. Le péché, comme nous allons le voir, nous allons aussi le voir, hein, qui est de manquer le but, l'objectif, mais je ne vais rien dire pour le moment. J'en ferai un commentaire donc la prochaine fois. Mais aujourd'hui, je tiens vraiment à parler de l'iniquité parce que nous voyons ça. Hein. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est que l'Éternel Dieu parle du péché et d'iniquité. Dans le même verset, je dis, mais c'est quoi? Quelle est la différence entre le péché et l'iniquité? Vous voyez? L'iniquité, c'est une qualité. C'est une qualité, une mauvaise qualité. Un caractère. Alors que le péché, c'est une transgression. On transgresse. Alors que l'iniquité, c'est le caractère de la personne. C'est une qualité de la personne. Vous voyez, qui est inique. C'est une qualité. Voilà. Et nous abordons le cinquième thème, ou bien le quatrième de l'Ancien Testament, si vous voulez, qui est le mot Richard, qui est la méchanceté, hein? L'impie, l'antichrist, est appelé aussi Racha, c'est-à-dire le méchant. L'antichrist est aussi appelé comme ça, le méchant. Vous allez voir que on l'appelle aussi l'Assyrien, il appelle le méchant Richard. Méchanceté, c'est la méchanceté. Méchanceté dans les relations civiles, méchanceté des ennemis, méchanceté morale et religieuse. Richa, ça vient du mot Richa. Richa, tort, méchanceté, culpabilité, ça. Hein? Action coupable, mensonge, méchamment. Fausse balance également. Trésor inique. Récha vient de rachat. Encore. Être méchant. Agir méchamment. Faire le mal. Être coupable. Faire le mal. Hein? Mais ça peut aussi dire... rachat veut dire aussi être vainqueur. Ça dépend, comme je vous le disais tout à l'heure, les thèmes hébreux, donc c'est des verbes, hein, c'est des verbes. Donc comme c'est des verbes, donc ça a beaucoup de significations, même des fois le contraire. des fois le contraire. Mais ça dépend du contexte, ça dépend du lien que ce verbe entretient avec les autres verbes du verset. D'accord? Ça veut dire reprendre le trouble, traite également le mot rachat. Donc, c'est richa que nous voyons qui est iniquité, richa. Là, on va retenir la méchanceté. On l'a trouvé dans 15 versets. La première fois, c'est dans Deutéronome 9, le verset 4. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas dans ton cœur. Lorsque l'Éternel chassera les Cananéens, c'est à cause de ma justice que l'Éternel m'a fait entrer en possession de ce pays. Non, c'est pas la grâce. Comme nous aussi, c'est pas la grâce. Si l'Éternel Dieu devrait tenir compte de ce que nous sommes, de notre péché, de tout, mais personne ne sera sauvé, mais nous sommes sauvés par la grâce, par le sacrifice de Yeshua. C'est pourquoi même il est dit que nous sommes perpétuellement en communion avec lui et le sang de Yeshua nous purifie de tout péché. Ce sang est toujours efficace jusqu'à maintenant. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations, de l'iniquité de ces nations, que l'Éternel les chasse devant toi. C'est ce que l'Éternel a dit aux Israélites pour les rendre humbles. Ne pensez pas que vous êtes au-dessus des autres nations. Ne pensez pas que vous êtes meilleur que les autres nations. D'ailleurs, dire peuple élu, c'est pas tout à fait ça. Peuple choisi, c'est mieux en parlant des Israélites ou des Juifs. Peuple choisi, parce que l'Éternel les a choisis, il ne les a pas élus. Il ne les a pas élections veut dire que c'est comme s'ils sont au-dessus des autres. Peut-être que certains l'ont compris comme ça, mais non, c'est un peuple choisi. Choisi pour montrer le caractère de Dieu sur la terre, pour montrer la voie aux autres nations. Comme aujourd'hui, nous aussi, dans l'Église, nous avons été choisis, puisque la Bible même nous dit que nous sommes comme une lettre vivante aux gens de ce monde. Nous n'avons pas été élus. Nous avons une élection en Dieu, ça c'est vrai. Mais cela ne fait pas de nous, cela ne fait pas de nous des gens supérieurs aux autres. C'est ce que l'Éternel Dieu disait donc aux Israélites. Mais c'est à cause de la méchanceté, de l'iniquité de ces nations cananéennes et que l'Éternel les a chassés parce que leur péché arrivait un moment à son comble. De la même manière, le péché du monde actuel va arriver à son comble à un moment donné et l'Éternel Dieu va dire stop, maintenant c'est fini. La coupe est pleine. Allez, on arrête tout. Voilà. Et c'est ce qui va. La méchanceté, la violence, la méchanceté. Aujourd'hui, en tout cas, ouvrez. Lisez les journaux, même sur les réseaux sociaux, voilà, tout ce qui se passe montre que nous sommes à la fin. Même les païens même le disent, le mensonge est devenu roi. Mais oui, avec les gouvernements, cette crise Covid a montré le vrai visage des nations, le vrai visage de ceux qui nous gouvernent. La perversité des uns des autres, la méchanceté des uns des autres, l'injustice des uns des autres. Nous sommes dans une période d'iniquité. L'iniquité se voit dans la méchanceté se voit, voyez. L'injustice se voit dans les jugements, dans tout, dans tout, dans tout. Alors que les grands de ce monde sont à l'abri de tout jugement. Ils font appel de leur procès ou bien on dit tel juge est muté, donc le juge ne peut plus s'occuper du dossier, donc ça traîne, ça traîne, ça traîne. Les grands ne sont jamais jugés, seuls les petits sont jugés et vont en prison. Mais les grands, qui sont les plus grands voleurs, les plus grands criminels, parmi ceux qui ont ordonner des guerres, c'est ces guerres. On détruit des vies, on détruit des vies, on détruit la vie, on détruit des peuples, on saccage des pays. Tout cela, Dieu la mènera en jugement. C'est de la méchanceté. Les gens tuent simplement pour s'accaparer des richesses d'autres nations. La vie des autochtones qui sont sur ces terrains-là ne leur préoccupe pas, pourvu que eux se remplissent les poches. Donc, en complicité avec les dirigeants de ces peuples, des nations, d'accord, déclenchent des guerres, c'est de la méchanceté, ou déclenchent des choses pour faire partir les populations et s'accaparer de ces terres pour pouvoir les exploiter, mes frères et sœurs. La méchanceté, tous les clignotants sont au rouge. Le Seigneur Yeshua revient, mes frères. La méchanceté est là, comme au temps de Noé, de l'or. La méchanceté est là. La violence et l'iniquité, même dans les communautés religieuses. Hein? Puisque les traîtres aussi sont parmi nous. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Hein? Dans Jude, nous voyons que les anti-messies, les antichrists, les méchants sont sortis du milieu de l'Église. Hein? Vous voyez, aujourd'hui, il y en a aussi qui sont sortis de la méchanceté envers leurs frères, de la méchanceté gratuite envers leurs frères, envers les membres de leur congrégation. Je me souviens toujours, je vais donner cet exemple de la méchanceté, de la perversité. Vous savez, je me souviens toujours de cela. J'avais connu un pasteur et un frère. Vous savez, je ne vais pas donner trop de détails. Donc, c'est lorsque je suis arrivé en France ici. Donc j'étais à Limoges et j'étais ami avec le frère en question puisque il avait fait aussi des études de médecine qu'il avait abandonné. Il n'a pas pu soutenir sa thèse. Donc lorsque je discutais avec lui, il avait accepté de reprendre. Il voulait reprendre. Il travaillait bien. Il avait un bon métier. Il gagnait bien sa vie. Et voilà, il avait une femme, une très belle femme, et la sœur était très belle. Ils avaient trois enfants, trois garçons, non? Oui, trois garçons, et une fille était née également. Et j'aimais beaucoup, on a bien sympathisé, quoi. Jusqu'au jour où, lorsque le pasteur de l'assemblée, donc, était parti, aller évangéliser ailleurs, donc... voilà, ce nouveau pasteur était arrivé et comme il venait d'une autre ville, donc on a demandé à quelqu'un de l'héberger. Donc il était hébergé chez une sœur célibataire avant, donc on a trouvé que ce n'était pas sain qu'il habite avec cette sœur. Donc ce frère en question, cette famille s'est positionné, a accepté donc d'héberger ce pasteur. Et ce qui devait arriver arriva. Pendant que ce frère en question donc allait travailler à la sueur de son front pour ramener de l'argent, de la nourriture, nourrir sa famille et pourvoir aux besoins de ce soi-disant pasteur, je l'appelle même pas pasteur, ce dernier s'occupait intimement de la femme du frère. C'est ça. Il faut être inique, il faut être tordu, il faut être méchant, il faut être injuste pour pouvoir faire cela. Vous voyez? La mère qui te nourrit. C'est ça, quoi. Tu oses monter sur le lit, souiller la couche de celui qui te nourrit, de celui qui t'a fait du bien, de celui qui t'a hébergé. Et ils justifiaient même cela. Les deux, comme ils ont été pris. Voilà, ils ont été pris. Donc, ils se sont mis ensemble. Ils ont dit que maintenant c'est fini, on va se mettre ensemble. Ils ont même travaillé. Il est même resté encore là-bas, hein. Vraiment resté encore dans la famille pendant la crise. Et le frère était complètement décontenancé. Le frère perdu complètement. Il disait même, ok, le frère était complètement déprimé que il disait, ils étaient dans la, ils se culpabilisaient que même que c'est sa faute, quoi. Voilà, il faut être pervers pour jeter, entraîner la victime à se sentir coupable à la place de l'agresseur ou du meurtrier. Il faut être pervers. Vous voyez? C'est ça l'iniquité. Le renversement des choses. C'est ça. Et après, se sont installés ensemble. Les deux adultères se sont installés. Et le frère même était, le frère était tellement largué, était tellement à l'ouest que il m'a dit qu'il avait même demandé à ce que ce pasteur élève ses enfants, que lui n'est plus digne d'élever ses enfants. Vous voyez? C'était ça. Ça, c'est une histoire vraie. Si le frère en question, je ne sais pas, je n'ai plus de lien avec lui aujourd'hui. Je n'ai plus son contact, mais c'est un frère que j'aime toujours, quoi. Je l'aime beaucoup parce qu'on a passé de bons moments ensemble. Ils m'ont accueilli aussi. On a prié ensemble, on a étudié la parole de Dieu ensemble. On se racontait nos galères. J'allais souvent chez eux. Hein? Vraiment, quoi. Vraiment, ça m'a meutri. Cette histoire m'a tellement meutri. Et voilà. Et les deux Lazare du Terre se sont installés. Évidemment, l'affaire est parvenue à la direction, donc, à la communauté de l'église. Donc, le pasteur a été interdit d'exercice. Il était marié, 3 enfants, 4 enfants. Il a abandonné sa femme et venir souiller la couche d'un frère, de celui qui lui a fait du bien. Il a même renversé les choses comme si le frère était coupable, hein, à sa place, et lui non. Et ils se sont mis ensemble, mais cette union n'a pas tenu. Puisque j'ai appris après que la sœur était partie, et ils s'étaient même inscrits sur Mythique, sur un site de rencontre. Ça, c'est la déchéance totale. Alors que c'est vraiment une sœur dans la foi qui était dynamique, qui était, ah là là, vraiment, je me souviens. Donc, mes frères et sœurs, la Bible nous dit que celui qui croit est debout, prenne garde de tomber, mes frères et sœurs. Voilà ce que je voudrais dire sur l'iniquité. Donc, l'iniquité peut, nous pouvons tous devenir iniques. C'est différent du péché. C'est une qualité. Alors que le péché, c'est une transgression. C'est rater le but, c'est une transgression de la loi. L'iniquité, c'est la qualité, c'est dans le caractère. Cette méchanceté, cette injustice, cette perversité, ce mépris de la loi de Dieu, de l'éternel Dieu, à nous miens. C'est une qualité, c'est dans le caractère de la personne, dans ses habitudes. Voilà, mes frères et sœurs, que l'éternel Dieu nous bénisse et nous garde et nous donne la grâce de demeurer fidèles à sa parole. Obéissons à la parole et ne nous bornons pas de l'écouter simplement. Amen et amen. Mon shalom fraternel à tous et à toutes. Amen.